On découvre un réseau organisé, comme il en existe plusieurs, y compris en Italie, d'où est parti le principe de brûler les entrepôts une fois qu'ils étaient pleins, qui permet de récupérer des sommes d'argent faramineuses et de les étouffer.
Mais c'est-à-dire concrètement, c'est quoi? Ça veut dire que, alors, il y a ce cas précis et particulier de Saint-Chamas qui a provoqué une émotion légitime, mais ça va au-delà. C'est un système. Il y en a ailleurs. On va de dépotoir en dépotoir. Essayez un peu de nous raconter au-delà de ce cas précis, sur quoi on met la main en fin de compte ici, sur quoi on met le doigt.
On met le doigt, on met la main sur tout un réseau qui est là pour récupérer l'argent qui traîne dans les déchets et récupérer l'argent qui n'est pas donné au recyclage. Nous, nous sommes partis sur un dossier d'enfouissement dans une manade de taureaux et on en arrive à l'incendie de Saint-Chamas avec un trafic transeuropéen puisque y a une connexion avec l'Espagne.
D'accord. Et concrètement, alors ça veut dire que SOS Corruption, vous êtes rentré dans cette histoire à quel moment? Comment vous êtes rentré dans cette histoire? Vous avez fait quoi? Quelle a été votre action dans ce dossier-là?
On est rentré dans cette histoire il y a à peu près 2 ans, quand il y a eu des adhérents de FNE13 avec qui nous travaillons régulièrement, qui nous ont signalé des enfouissements dans une manade, donc un élevage de taureaux, à Saint-Martin-de-Crau, une manade connue, célèbre. Et à la suite de ça, nous avons commencé à publier et à rechercher. Nous avons trouvé plus d'une douzaine de décharges dans le même secteur. Et j'ai contacté l'OCLAPS, l'Office central de la gendarmerie qui s'occupe de la délinquance environnementale. Et on leur a donné le dossier. Ils ont commencé à travailler dessus et on a pu le relier par rapport à des renseignements que nous avions reçus et que j'ai communiqué encore à l'OCLAPS. Tout système qui, de petites sociétés qui se passent les contrats de l'un à l'autre, de sociétés qui ont des tout petits capitaux, comme on peut le voir à Saint-Chamas à la fin. Et donc, le but est d'étouffer les sommes du recyclage en jetant les déchets et en encaissant la différence.
D'accord. Alors aujourd'hui, donc on comprend bien qu'il y a ce dossier de Saint-Chamas, mais derrière, il y a bien d'autres choses. C'est quoi? C'est une espèce de cavalerie permanente en réalité. Et donc la justice, alors, double question, et la justice est saisie?
Je vais vous donner un exemple. Ce type d'installation n'a pas besoin d'autorisation particulière pour s'installer. Une simple déclaration suffit. Nos amis de FNE sont allés en préfecture demander combien il y avait d'installations du type de Saint-Chamas. On leur en a donné 7. Nous avons fait un travail de recherche parce que dans mes adhérents, j'ai un ancien du recyclage. Il a, en tapant les codes NAF, APE, etc., on a trouvé 322 installations de ce type dans les Bouches-du-Rhône. Donc vous voyez un petit peu l'échelle avec des sociétés qui sont autour de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros de capital et qui toutes dépassent largement les capacités, n'ont pas le matériel pour traiter. Et on voit que les incendies se multiplient. Il y en a encore eu 2 la semaine dernière sur Marseille. Dans Marseille même, un dans le 11e et un dans le 16e.
Et derrière, il y a. Alors, donc, ce sont des sociétés qui se montent comme ça, quasiment du jour au lendemain. D'ailleurs, pour ce qu'on a vu, nous, en regardant également le dossier, sans véritable expertise, vous l'avez dit, avec très, très peu de capitaux. Donc, il y a peu de capitaux. Par contre, c'est un trafic, c'est une activité qui rapporte beaucoup. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut savoir et comprendre sur les enjeux financiers qu'il y a
Non, mais
derrière tout ça?
il faut bien comprendre que si les sociétés comme celle de Saint-Chamas sont des petites sociétés avec des petits capitaux, il y a des personnalités comme celles qui ont été non seulement inculpées, mais incarcérées, Monsieur Pérez, qui était déjà connu défavorablement et très défavorablement dans l'Occitanie, comme d'autres le sont dans le trafic de déchets dans les Bouches-du-Rhône, et les autres sont des marionnettes. Il y a une remontée d'argent et du blanchiment et des transferts de sommes, avec des transferts de marché pour les grosses sociétés qui redonnent à des petites sociétés. Enfin, c'est tout un montage qu'on connaît dans d'autres domaines.
Est-ce que, Jean Sanson, est-ce que, donc là, effectivement, il y a visiblement, alors vous le dites, vous avez alerté la justice, vous avez travaillé, vous avez identifié des choses, vous continuez à travailler. Il y a vraisemblablement, bon, on verra si un jour, où ira ce dossier en justice, il y a évidemment vraisemblablement des gens qui ont des pratiques, on va dire, plus que douteuses. Est-ce que, du point de vue des autorités, il y a des défaillances? Parce que, par exemple, dans le cas particulier et emblématique de Saint-Charles, la mairie, les collectivités, les particuliers aussi, donc ont porté plainte. Ils étaient légitimement très en colère vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelque part quand même une défaillance des autorités en matière de contrôle? Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité d'un système administratif, de règlement, de contrôle qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Je pense que il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs problématiques dans le déroulement des faits, en fait, dans ce qui permet le déroulement des faits. D'abord, il y a le manque de contrôle, comme je le disais tout à l'heure, à l'enregistrement de ces sociétés. Ensuite, on sait qu'il y a un manque de moyens dans la justice, il manque de personnel. Donc, ils ne peuvent pas traiter tous les dossiers dans les temps voulus. Un des gendarmes de l'OCLAPS me dit, quand je le contacte, le problème, c'est que tu as autant de dossiers, toi, dans les Bouches-du-Rhône que ce qu'on peut en avoir dans toute la France. L'ADREAL et toutes les installations, tous les organismes de contrôle sont sous-équipés en hommes et en matériel. La région elle-même est sous-équipée en installations pouvant les recevoir. Mais d'un autre côté, tous les maires se plaignent qu'on vienne décharger chez eux, mais aucun élu, ni aucun riverain, ni aucun habitant n'est d'accord pour qu'on installe ne serait-ce qu'une petite déchetterie propre dans sa commune. Donc, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue.
Et alors,
les défaillances, c'est pas qu'il y a des défaillances, il y en a. Il y a certains élus qui sont défaillants dans l'intervention. Et il y a la justice qui peut être défaillante. Il y a moi, je peux vous donner des exemples très précis où le préfet, après un signalement, donne une obligation, un arrêté, prend un arrêté avec une obligation de remettre en état, et personne ne va contrôler, la décharge continue. Donc, c'est très, très compliqué.
On voit que, effectivement, un dernier mot, Jean, on voit effectivement que c'est un problème, c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement large, extrêmement compliqué, avec plusieurs problèmes qui font qu'on en arrive à ce type de situation inacceptable. Et est-ce que aussi dans cette liste de problèmes que vous identifiez, qui montrent bien comment tout ça demanderait une remise à plat, mais totale. Mais est-ce que, du point de vue en amont, très en amont, avant qu'on en arrive à toutes ces catastrophes, est-ce que les autorisations, de votre point de vue, sont, en tout cas, aujourd'hui, telles qu'elles fonctionnent, telles qu'elles sont accordées, est-ce que c'est trop léger? Est-ce que là, il y a des choses à remettre en cause ou à remettre en place? Ou est-ce qu'il y a même peut-être une défaillance des autorités préfectorales quand elles donnent ce type d'autorisation de façon aussi légère? Parce que quand on regarde les dossiers, c'est quand même un petit peu ce qu'on voit. Quel est votre sentiment là-dessus?
C'est non seulement très léger, mais comme je le disais tout à l'heure, pour les petites sociétés de ce genre, il n'y a pas besoin d'autorisation. Une simple déclaration suffit. Donc, effectivement, FNE13 est en train de se battre en ce moment avec la préfecture pour déposer un projet de loi pour que ces sociétés soient astreintes à non seulement la déclaration, mais à des autorisations, des contrôles du matériel et des équipements qui permettent effectivement de recycler. Vous pensez que toutes ces installations, quand on leur demande leur livre de contrôle qu'ils sont censés tenir, on ne les a jamais? Ils ne les trouvent jamais. Je peux vous donner plusieurs rapports de l'ADREAL ou de la DDTM ou de tous ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. vous disent on n'a pas les livres de rentrée des marchandises, si on peut dire, des déchets. Comme je le disais, c'est un manque de moyens, c'est un manque de contrôle. Oui, mais il y en a tellement dans notre pauvre pays que on est dans un système où quasiment il y a pas grand-chose à faire si ce n'est à contrôler. Il y a quelque chose à améliorer, comme là pour ce genre de société, de les astreindre à une déclaration, à plus qu'une déclaration. Mais si déjà on les contrôlait régulièrement, ils n'auraient plus besoin de déclarer, puisqu'on saurait qu'ils ne peuvent pas frauder. Mais comme tout passe, ils continuent quoi, sans aucun problème. Mais on connaît d'autres domaines où c'est un peu la même chose.